Samwe Namah Rinpoche Dagi Che Orpe Meden Chula Kanjin Chanpe Gone Jesunte Kusuntum Kinajum Seltusel Songye Chedon Tsogi Chonamla Jointum Padunani Kyam Suchi Dagin Jin Sogi Pesenamgi Jola Penchi Songye Rumbai Shu Songye Chedon Tsogi Chonamla Jongchum Badu Dani Kyam Suchi Dagin Jin Sogi Pesenam Gi Jola Penchi Songye Rumbai Shu Songye Chedon Tsogi Chonamla Jongchum Badu Dani Kyam Suchi Dagin Jin Sogi Pesenam Gi Jola Benchi Songye Jumba
Alors pour l'enseignement de ce soir, il n'y aura rien de bien nouveau. C'est un thème que la plupart d'entre vous connaissent bien, mais je voudrais partager avec vous ce que Rinpoche Rinpoche, de façon résumée, a transmis pendant les 5 jours de retraite qu'on a fait à Berlin il y a 3 semaines. Et tout d'abord, Rinpoche, à la fin de la retraite, m'a dit que vraisemblablement, il serait à Luce le week-end du 6 et 7 avril, le week-end qui suit le week-end de Pâques. Donc je lui ai demandé, puisqu'il est le week-end de Pâques à Barcelone, je lui ai demandé qu'il y avait des avions tous les jours, hein, depuis Barcelone jusqu'à Balmulhouse, qu'il vienne donc avant le vendredi nous rejoindre à Luce. Voilà, alors, précision très importante, pas besoin dès demain matin de téléphoner à Cherab pour réserver pour le week-end. Attendez de recevoir un papier qui confirme que Rinpoche viendra bien ce week-end-là, parce que Rinpoche doit me confirmer de toute façon qu'il sera à Luce ce week-end. Et tant que vous n'avez pas reçu le papier avec le coupon, pas besoin de téléphoner à Cherab, Cherab ne prendra aucune inscription, hein. Ensuite, je trouvais que l'enseignement que Rinpoche a donné à Berlin, c'est un bon rappel en ce début d'année pour remettre en place un petit peu les fondamentaux quand on les a un petit peu, pas vraiment oubliés, mais on s'est un peu éloigné des fondamentaux, on va dire. Parce que Rinpoche a enseigné principalement, pas seulement, mais principalement sur les préliminaires. Et il a même dit que aujourd'hui le mot préliminaire lui posait un peu un problème parce que beaucoup de personnes venaient lui dire mais si ces pratiques sont dites préliminaires, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a après, quoi? Et lui appelle ces pratiques-là plutôt les fondations pour bien préciser que, eh bien, ces pratiques sont les fondations de notre pratique spirituelle, de tout notre cheminement spirituel, et que lorsque ces fondations ne sont pas stables, ne sont pas profondément installé dans notre esprit, tout ce que l'on construira de toute façon sera fragile. Donc lui donne ce terme, les appelle les fondations. Et bien sûr que préliminaire, pourquoi est-ce qu'on appelle ça préliminaire? Parce que dans notre voie du Mahamudra, ces pratiques-là sont la phase première du cheminement pour le Mahamudra, mais la voie du Mahamudra peut utiliser deux chemins, si vous voulez. Se divise en deux chemins. Et il y a un chemin indirect avec la pratique d'un yidam, hein, d'un symbole de méditation. Pour le Mahamudra, on pratique un yidam de l'Anuttara Yoga Tantra, c'est-à-dire de la catégorie supérieure des quatre catégories de Tantra. Et pour avoir accès à une telle pratique, il faut avoir accompli au moins une fois la totalité des pratiques dites préliminaires. Dans ce sens-là, ces pratiques sont préliminaires à la pratique d'un yidam. Et puis lorsqu'on est dans la pratique du yidam, il faut effectuer la pratique extérieure, la pratique intérieure, puis la pratique secrète. Et cette pratique secrète, c'est ce qu'on appelle les yogas de Naropa ou les yogas de Niguma. Bon, ça c'est la voie, on va dire, la plus progressive et la plus classique enseignée lorsque on enseigne la voie du Mahamudra. Mais il y a une autre voie directe. Cette voie a été enseignée principalement par Gampopa. C'est Gampopa qui a été vraiment l'initiateur de cette voie. Et elle n'utilise pas les moyens tels que les pratiques de yidam et de yoga. C'est-à-dire que dès le départ, dès le début de la voie, les instructions du Mahamudra profondes, la nature de l'esprit, eh bien, sont données progressivement, mais elles sont données sans que l'on passe par des pratiques telles que les pratiques de yidam. Il y a par exemple Mingyur Rinpoche qui a écrit récemment un texte sur le Mahamudra et qui termine en disant celui qui reçoit les instructions profondes du Mahamudra, virgule, la pratique d'un yidam n'est pas requise. C'est important de bien comprendre ça parce que Rinpoche enseigne cette voie-là. Or, moi, quand j'ai rencontré Rinpoche, les anciens, vous savez ça, quand j'ai rencontré Rinpoche, moi, j'ai été formaté par la voie vraiment progressive. C'était le moins qu'on puisse dire. Kalo Rinpoche, Boka Rinpoche, c'était vraiment yidam, extérieur, intérieur, etc. Les séminaires qu'organisent les successeurs de Boka Rinpoche aujourd'hui, en France, sur le Mahamudra, ou en Inde, eh bien, c'est cette voie-là, progressive. Et quand j'ai rencontré Rinpoche, lui ne donnait aucun yidam. Il rechignait à donner des initiations et il enseignait vraiment Shiné, Laktong et les préliminaires. Mais à tel point que les personnes, lorsqu'elles avaient terminé les pratiques préliminaires, elles venaient me voir en me disant « Est-ce que vous pouvez demander à Rinpoche de transmettre la pratique d'un yidam ?» Et moi, je voyais cette voie progressive comme étant la voie du Mahamudra. Donc à chaque fois que j'allais voir Rinpoche, je me heurtais un peu à sa réponse qui était « Mais quand on a reçu ces instructions-là, il n'y a pas besoin de pratique de yidam. » Alors j'ai été jusqu'à me dire « Mais on n'est pas dans le zen, quoi. » Pratique du Vajrayana, c'est pratique des tantras, des pratiques de yidam, etc. Et jusqu'au jour où, à force d'insister auprès de Rinpoche a dit « Oui, oui, prochain séminaire d'été, je donnerai la transmission ou l'initiation d'un yidam pour ceux qui ont terminé les préliminaires. » Donc, ils sont tous venus au séminaire. Et au séminaire, Rinpoche a dit « Non, je ne donnerai pas de yidam. » Alors, ça a été une grosse question pour certaines personnes parce que « Qu'est-ce que je fais là, quoi ?» Est-ce que je ne vais pas alors changer de maître parce que ma voix, eh bien, passe par un yidam, etc. Jusqu'au jour où Rinpoche a vraiment expliqué que ce qu'il enseignait, c'était la voie directe telle que Gampopa l'avait enseignée. Donc, il faut bien se rappeler que cette voie directe, elle est enseignée aussi, c'est une voie que l'on trouve dans le Vajrayana, dans le bouddhisme tibétain. Donc, la pratique d'un yidam n'est pas obligatoire. Voilà. Et donc, ce qu'enseigne Rinpoche, eh bien, c'est cette voie-là. Donc, il ne faut pas se dire que Rinpoche enseigne une voie qui est, oui, pour les débutants, et puis après, bah, pour ceux qui veulent faire un yidam, ils sont obligés d'aller chercher ailleurs. Et c'est d'autant plus important de savoir que Rinpoche enseigne selon ce chemin-là, parce que quand on le sait, on remarque que Rinpoche est vraiment un maître du Mahamudra et que son enseignement est extrêmement direct et qu'il est continuellement en fait une introduction à la nature de l'esprit. À Berlin, par exemple, ça a été clair, quoi, vraiment très net. Notamment, toute une session où il n'a parlé que de la nature de l'esprit, comment réaliser ou comment faire naître l'expérience de cette nature de l'esprit. Donc c'était une introduction à la nature de l'esprit, ce qu'on en appelle en tibétain un mutre direct, d'esprit à esprit. Et Rinpoche est assez doué en la matière, on va dire. Et il le fait de façon rarement formelle. Il ne dit pas, mettez-vous en posture, je vais faire une introduction à la nature de l'esprit, ouvrez votre esprit, soyez prêts, etc. Il le fait à table. Il le fait quand on boit le thé avec lui. Il le fait quand on se promène avec lui. Il le fait lors d'un enseignement. Mais avec lui, toujours prêt. Il faut être toujours prêt. Parce que chaque situation de la vie quotidienne peut être pour lui un support pour transmettre sa réalisation de la nature de l'esprit. Et c'est ce qu'on appelle d'esprit à esprit. Et ça, c'est souvent au-delà des mots, hein, mais c'est vraiment au niveau de l'expérience qui se transmet. Si notre esprit est totalement ouvert à ce moment-là, alors cette expérience est transmise et elle fait naître cette expérience dans notre esprit. Donc voilà pour replacer un petit peu les enseignements ou la voie que transmet Rinpoche. Mais notre voie qu'elle utilise, la voie du Mahamudra qu'elle utilise à Yidam ou qu'elle n'utilise pas de tels moyens habiles, elle doit comporter des fondations telles que les quatre idées fondamentales ou les quatre préliminaires communes, à savoir la précieuse existence humaine, l'impermanence, la loi de causalité et la nature du samsara. Et Rinpoche a redéveloppé cela, et puis il a redéveloppé aussi les préliminaires spécifiques. Quand on réfléchit sur l'ensemble des conditions que nous devons rassembler ce soir pour être ici, il n'y a pas une, deux, trois, dix conditions, mais il y en a absolument une multitude presque innombrable. Prenez une feuille de papier si vous avez vraiment l'impression de réunir seulement trois ou quatre conditions qui vous permettent d'être ici ce soir et de pouvoir pratiquer le Dharma, et vous verrez que si vous réfléchissez sur votre environnement, sur votre le pays dans lequel vous êtes aujourd'hui, les conditions qui permettent à ce pays de transmettre le Dharma, toutes les personnes qui vous ont permis ce soir d'être présentes ici pour recevoir le Dharma, faire en sorte que le Dharma soit présent, faire en sorte qu'il soit enseigné dans ce pays, dans cette ville, etc. Mais vous allez remplir des feuilles. Vous allez remarquer que ce n'est pas trois ou quatre conditions, mais que celles-ci, elles sont extrêmement nombreuses. Imaginez simplement, il y a 50 ans de ça, si l'on voulait pratiquer le Dharma, et quelle que soit l'école que l'on voulait pratiquer, c'était nettement plus difficile s'il n'y avait pas eu des maîtres de toutes les traditions qui sont venues en Occident, et s'il n'y avait pas eu quelques hippies 68 arts qui allaient dans l'Himalaya tout à fait pour chercher autre chose que le Dharma, mais qui, à cette occasion-là, ont rencontré des maîtres tibétains en exil, par exemple, et qui les ont invités en Occident à venir transmettre le Dharma. Ça, c'est fait comme ça. C'est ça l'interdépendance aussi. Sans cela, moi j'ai connu par exemple Jean-Pierre Schnetzler, ceux qui ont lu des bouquins de lui, il est décédé, mais à l'âge de 17 ans, c'est-à-dire dans les années 20-25, quelque chose comme ça, il a voulu être bouddhiste, impossible en France de rencontrer le Dharma. Impossible. Sauf par quelques ouvrages d'érudits intellectuels du fin 19e qui en fait n'avaient rien compris à la vacuité et qui associait la vacuité au nihilisme. Et lui-même, parce qu'il était mordu et qu'il avait vraiment envie de connaître cette voie-là, il est allé d'abord au Sri Lanka. Mais vous imaginez, en 1930, en gros, il a dû faire le voyage, etc. Aujourd'hui, le dharma est à notre porte, quoi. Et nous avons des conditions à la fois environnementales, dans le sens où ce dharma, il est transmis, mais pas seulement par une compréhension intellectuelle ou universitaire que certains érudits peuvent avoir, mais il est encore transmis. Il est encore transmis par l'expérience et par la réalisation de certains maîtres. C'est-à-dire qu'il est transmis de façon aussi authentique et aussi pure qu'il a été transmis par le Bouddha lui-même. La réalisation du Bouddha est une réalisation qui est possible encore aujourd'hui et qui assure la transmission du Dharma selon toutes les écoles confondues. Et il y a de véritables maîtres spirituels dans le bouddhisme, tels que l'on conçoit la notion de maître, c'est-à-dire ayant la réalisation que l'initiateur de la voie a réalisée. Il y a également des conditions qui nous sont propres. Nous ne sommes pas trop jeunes pour pratiquer, nous ne sommes pas encore trop vieux pour pratiquer, nous avons toutes les conditions physiques, mentales, intellectuelles pour réfléchir, pour mettre en pratique le dharma. Nous avons les conditions matérielles aussi pour pratiquer le dharma. S'il n'y avait aucun centre du dharma, si nous n'avions aucune condition matérielle pour recevoir le dharma dans telle ou telle structure, ça serait nettement plus difficile. Ça serait peut-être pas impossible, mais ce serait plus difficile. Je crois qu'il faut apprécier tout cela. Et regardez, depuis le temps que je suis à Strasbourg, le nombre de personnes qui étaient présentes il y a quelques années dans la Sangha, hein, les anciens, vous êtes combien les anciens qui étaient là quand je suis arrivé à Strasbourg? Par vous? C'est à peu près tout. Raphaël. Où sont les autres? Ils ne sont pas tous morts. Il y en a qui sont morts. Mais on voit que ces conditions-là, eh bien, elles sont complètement changeantes, mouvantes, instables, fragiles, et qu'elles se modifient d'instant en instant, et que se modifiant, eh bien, elles ne permettent plus à certaines personnes en tout cas, de recevoir le dharma, voire de le pratiquer. Donc ça, c'est le deuxième élément. Quand on réfléchit sur le caractère précieux de toutes ces conditions qu'il nous faut réunir, et il faut bien prendre conscience de ça, il nous faut réunir ces conditions-là pour pouvoir pratiquer le dharma. Et si la pratique du dharma a un sens pour nous, eh bien nous devons prendre conscience des conditions qui nous sont nécessaires et prendre conscience aussi que ces conditions, elles sont extrêmement fragiles, instables, elles se modifient, peuvent disparaître d'un instant à l'autre. Cette réflexion-là, ça va nous permettre de vraiment donner un caractère extrêmement précieux au fait de pouvoir pratiquer le dharma. Cette réflexion sur l'impermanence de toute chose, c'est une réflexion qui est une pièce maîtresse, en tout cas, comme antidote aux obstacles de notre pratique et que l'on voit dans toutes les biographies des maîtres du passé. Cette réflexion sur l'impermanence a été, on va dire, un antidote majeur pour les obstacles que chacun a rencontrés dans son cheminement. Et bien souvent, quand on réfléchit sur l'impermanence, on réfléchit sur notre propre impermanence, ce qui va se passer au moment de notre mort, ce qui va se passer après notre mort, etc. Mais, bon, c'est pas inutile, c'est pas ce que je veux dire. Ce n'est pas inutile. Mais c'est difficile d'intégrer notre impermanence. C'est difficile de vraiment la ressentir avec nos tripes. On sait tous qu'on va mourir, mais on est persuadé que dans 6 mois, on se reverra tous et on sera tous à peu près là, quoi. C'est-à-dire qu'on le comprend avec notre tête, mais c'est difficile vraiment d'intégrer cette notion-là. Par contre, réfléchir et intégrer le fait que tout change, que les conditions changent d'instant en instant, ça donne un autre aspect plus concret à cette réflexion sur l'impermanence. Voyez tout ce que nous on a vécu dans le passé. Qu'est-ce qu'il en reste, quoi? Tout ce que l'on a été, tous les personnages que l'on a été dans le passé, mais qu'est-ce qui reste de ça aujourd'hui? Tout ce que l'on a fait, par exemple, qu'est-ce qui reste?
Ça, on peut réfléchir de cette façon-là. C'est intéressant de réfléchir sur cette notion d'impermanence de cette façon-là, parce que Rinpoche insistait à un moment donné, il insistait sur le fait que tout ce que nous avons vécu dans le passé, même les choses que l'on ne veut pas voir ou que l'on ne veut pas se remémorer parce qu'on a peut-être honte de certains actes que nous avons accomplis dans le passé. Mais Rinpoche disait, tout cela jusqu'à aujourd'hui, mais laissez-le filer, quoi. Laissez-le passer, laissez-le suivre son chemin. C'est totalement accompli, terminé, on ne peut absolument plus changer quoi que ce soit de ce que nous avons vécu. Alors on peut en tirer des conclusions, on peut en tirer des enseignements, on peut prendre des engagements en fonction de... Oui, d'accord, mais ce que nous avons fait et la façon dont nous l'avons fait, mais c'est terminé, quoi. Il n'y a pas besoin de retenir cela continuellement et de vivre dans ce souvenir et de vivre dans ce passé. De même, il n'y a rien de stable quant à toutes nos projections concernant le futur. Et même si nous devons faire des projets et nous ne pouvons pas vivre sans faire de projets, comme nous ne pouvons pas vivre sans souvenirs, je suis bien d'accord. Mais ne solidifions ni le passé, ni le futur. La seule réalité, c'est l'instant présent. Et Rinpoche, dans ce développement de l'instant présent, disait « Si nous ne pouvons rien faire du passé, nous pouvons modifier la façon dont nous vivons l'instant présent. » Et pour lui, c'était ça la pratique du dharma, à tel point qu'il nous rappelait que celui qui pratique le dharma, mais qui ne note pas de différence profonde d'une évolution dans son comportement, dans sa façon de gérer, de vivre son instant présent, pour Rinpoche, ce n'est pas un pratiquant du dharma. Même si on a les apparences parfaites du pratiquant du dharma. C'est-à-dire que la façon d'être dans notre instant présent, c'est ce qui permet d'évaluer notre pratique et notre cheminement spirituel. Rinpoche disait, comment réagissez-vous dans l'instant présent à telle ou telle situation ? On ne peut pas éviter les situations qui vont se produire. Si nous sommes malades dans un an, nous serons malades dans un an. Comment va-t-on réagir face à cette maladie ? Comment va-t-on réagir par le fait de vivre les signes de la vieillesse si nous devons vieillir ? Cette notion de l'instant présent, mais c'est la libération. Parce que la libération ne peut s'expérimenter, mais que dans l'instant présent. Et ça, c'est fondamental de vraiment comprendre cela. Et Rinpoche disait, quand on comprend cela, la première chose qui disparaît, c'est la peur de la mort. Parce que, et ça c'était le sujet du mois dernier, hein, mais dans la réflexion sur les agrégats, et notamment sur l'agrégat de la conscience, si vous avez vraiment réfléchi sur cet agrégat-là, vous ne pouvez que constater que ce ne sont que des instants de conscience. Et Rinpoche faisait ce geste-là. Il claquait des doigts en disant, mais ce ne sont que des moments, moments, moments. Quelle est la durée de l'instant ? Si vous pouvez fractionner un instant, eh bien cet instant a un passé et un futur. Donc c'est encore fractionnable. Donc il arrive à un moment où c'est ça. Et là on fait l'expérience par cette réflexion, par cette observation de l'impermanence et de l'instant présent, que en dehors de ça il n'y a rien, il n'y a rien d'autre. Et il n'y a pas une espèce d'entité qui vit, qui expérimente ces instants. Mais il n'y a que ces instants de conscience. Mais c'est une succession d'instants de conscience. Et ensuite, Rinpoche, par cette notion de l'impermanence par rapport au passé, par rapport au futur, et en étant dans l'instant présent, qu'est-ce que je voulais dire ? Zut. Bon, ça me reviendra. En tout cas, la transformation de l'esprit ne peut se faire que dans cet instant-là. Alors ça, alors pour moi, ça, ça vous allez dire que c'est un de mes chevaux de bataille. Hein. Mais si l'on considère que notre transformation de l'esprit, ça va être le fruit d'un million de mantras, le fruit de 100 000 prosternations, ou le fruit de d'heures d'assises, je pense qu'on là, on a tout faux, quoi. On pratique le dharma en confond ou en prenant les moyens pour le but. Tout cela, ce ne sont que des moyens. Que ce soit des moyens établis par les sutras ou des moyens établis par les tantras, ce ne sont que des moyens. À quoi servent ces moyens? Ces moyens servent à vivre l'instant présent, à nous ramener dans l'instant présent. Et lorsqu'on répète l'expérience de cet instant présent 100 000 fois ou 1 million de fois, alors oui, l'expérience de cet instant présent va se stabiliser. Et c'est pourquoi c'est si important de répéter encore et encore nos pratiques ou nos heures de méditation. Mais la transformation de l'esprit ne se fait pas comme étant le résultat de répétition d'un mantra que l'on considère comme ayant un pouvoir magique, par exemple. Ou le fait de se prosterner. Rinpoche était clair, il disait, si vous vous prosternez sans être conscient de ce qui se passe dans l'instant présent, vous n'aurez qu'une chose comme résultat, c'est de bons abdominaux, quoi, c'est tout. Il n'y aura pas un iota de transformation de notre esprit. Et ça, c'est vraiment très important de comprendre cela. Il y a tellement de personnes en Occident qui font les pratiques préliminaires spécifiques et qui pensent qu'à la fin de ces pratiques préliminaires, parce qu'elles les ont faites, alors il doit y avoir, comme par magie, comme par enchantement, une transformation de leur esprit, alors qu'elles n'ont jamais été dans l'instant présent. Ensuite, Rinpoche développait donc la réflexion sur la loi de causalité. Alors, ce qui était intéressant dans son développement, c'est qu'il ne reliait pas tant la causalité à l'action, mais à la motivation qui dicte notre acte. Et c'est vrai que lorsque on étudie la loi du karma, la loi de causalité, on voit que c'est la motivation avec laquelle on agit qui donne la couleur positive ou négative à l'acte que l'on accomplit. Alors, c'est important de bien comprendre cela parce que il y a des actes qui en apparence peuvent être considérés comme négatifs, mais dont la motivation est positive, et inversement. Alors ça, ça touche une autre question que l'UBF, par exemple, est en train sur laquelle l'UBF est en train de réfléchir, hein. C'est par rapport au ministère de l'Intérieur, quand le ministère veut faire des lois sur, par exemple, l'euthanasie, eh bien, le ministère a toujours un problème avec les bouddhistes. Parce que les chrétiens ont une vision extrêmement claire et définie par rapport à cette question sociale. Les musulmans également, les juifs également, les bouddhistes, on ne sait pas trop, c'est tantôt, c'est en fonction du contexte, etc. Et ça gêne beaucoup le ministère de l'Intérieur, parce que on ne peut pas en fait réellement se positionner de façon claire et définitive. Pourquoi? Parce qu'il y a la motivation qui conduit l'acte. J'ai été contacté par le maire d'Épinal pour faire partie d'un comité d'éthique par rapport à la mort et l'incinération qu'il veut mettre dans sa ville. Je sens que il va y avoir du flou quand il va me poser la question, quoi. Parce que les autres sont très catégoriques. On ne peut pas dire que l'euthanasie, par exemple, on ne peut pas dire que c'est vraiment considéré comme un acte positif, mais quelle est la motivation qui va nous permettre de prendre la décision dans ce contexte-là, dans ce cas-là? Et la décision que l'on prendra dans ce cas, on ne peut pas l'étendre comme valeur absolue à toutes les questions d'euthanasie. Cela dépend d'un contexte, cela dépend d'une, d'une situation, et on ne peut prendre une décision que cas par cas. Parce qu'il y a la motivation, eh bien, qui doit sous-tendre notre façon d'agir. Et Rinpoche insistait là-dessus. Et puis, Rinpoche a fait une distinction entre la notion d'égalité et la notion d'équanimité. L'égalité, pour lui, il voyait cette notion-là qu'on devait la développer par rapport aux autres. Considérer les autres comme étant égaux à nous-mêmes dans leurs aspirations, dans leur aspiration au bonheur, dans leur aspiration à se protéger de la souffrance, mais dans leurs actions aussi, en termes de motivation, mais en termes aussi d'actions conditionnées par l'ignorance fondamentale ou par la saisie égotique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre eux et moi, à savoir que tout le monde accomplit des actes avec une motivation positive, et tout le monde accomplit des actes sous l'emprise de l'ignorance fondamentale. Donc ça, c'est une notion qui va permettre de relativiser nos jugements, hein, et puis notre perception que l'on a des autres, mais la perception qu'on a aussi de nous-mêmes. Alors ça, c'est moi qui rajoute, je ne crois pas qu'il en ait parlé à Berlin, hein, mais franchement en Occident, alors ça c'est un de mes autres dadas, mais franchement en Occident, il faut prendre refuge en le Bouddha, hein. Mais alors pas en le Bouddha historique. C'est prendre refuge en vous-même en tant que Bouddha, hein. Parce que si l'on ne prend pas refuge en soi, en tant que nature de Bouddha, eh bien, à mon avis, on n'avance pas grand-chose sur le cheminement spirituel bouddhiste. Le Bouddha disait, vous n'avez qu'un seul maître, vous-même. C'est-à-dire que toute cette potentialité d'éveil, elle est là. Et plus j'en prendrai conscience en moi et confiance dans cette nature de Bouddha en moi, plus je pourrai la reconnaître comme étant présente chez l'autre. Même si elle est recouverte d'une bonne couche de voile, elle est quand même présente. Et alors, en Occident, alors même si nous sommes formatés par telle ou telle culture spirituelle, pour ceux qui ont été formatés par ces cultures spirituelles, on va dire culpabilisantes, ou montrant l'humain comme étant pécheur, ou nul, mauvais, etc. C'est un formatage duquel il faut se défaire si l'on pratique le dharma. Alors, je ne dis pas que c'est facile, mais on ne peut pas pratiquer le dharma si l'on a cette vision aussi négative de soi-même. Il y a un moment, il va falloir réfléchir sur cette nature de Bouddha et sur les valeurs ou les éléments qui forment cette nature de Bouddha. C'est pour moi un élément, mais fondamental pour une personne qui s'intéresse à la voie bouddhiste. Et si vous n'êtes pas convaincu de vraiment avoir cette nature de Bouddha, prenez une feuille de papier et listez. Et pour une fois, ne listez pas tout ce qui est négatif chez vous, mais listez tout ce qui est bon, tout ce qui est positif, tout ce que vous considérez comme positif. Et surtout, laissez tomber l'idée que ce genre de travail pourrait développer chez vous l'orgueil. Laissez tomber cette idée-là, mais listez tout ce que vous estimez positif chez vous. Le nombre de fois où vous avez aimé quelqu'un. Et ne vous dites pas, oui, mais j'ai aimé par désir, oh, c'était pas un amour très pur, très vaste, etc. Reconnaissez que dans ce sentiment-là, l'amour était présent. Sans jugement. Notez le nombre de personnes depuis que vous êtes né que vous avez aimé. Le nombre de personnes à qui vous avez témoigné de la bienveillance, de la bonté, un sourire, de la gentillesse, etc. Et paie comme ça votre classeur. Le nombre de personnes ou d'êtres pour qui vous avez manifesté un jour de la compassion parce que cet être-là souffrait. Alors bien sûr qu'il y a des tas de voiles, de conditionnements égotiques, etc. D'accord. Mais si l'on ne met l'accent que sur ces conditionnements négatifs, on est à côté de cette nature de Bouddha. Or, toute la pratique va permettre de développer ce potentiel, de développer cette nature de Bouddha. Et de réduire, évidemment, les voiles, de purifier les voiles. On n'a jamais dit que dans la pratique spirituelle, il ne fallait pas purifier les voiles. Mais il faut mettre l'accent mais sur cette nature de Bouddha et sur sa manifestation et les aspects de sa manifestation. Quand vous vous levez le matin, au lieu de vous dire « je suis nul, moche, oh, j'ai encore été en colère 10 fois hier, etc. et aujourd'hui ça va être la même chose », et je dis ça parce que l'autre jour à Luce, il y a une personne qui dans le week-end a dit « mais c'est la première fois que j'entends ça ». C'est une personne qui a déjà un certain nombre d'années, on va dire. Et elle a dit, devant tout le monde, elle a dit « depuis toute petite, je me suis entendu dire que nous sommes pécheurs. Et que même si je suis très attentive à ce que je fais dans la journée, quand j'irai me coucher, j'aurai péché au moins 7 fois. Minimum 7 fois. Par omission, comme on dit. » Je suis désolé. Avec une façon de se percevoir telle, on ne peut pas pratiquer le dharma. Alors, modifiez votre perception de vous-même. Sentez que vous êtes Bouddha et que cette nature de Bouddha, elle est présente en vous. Là, vous allez prendre conscience du matériau spirituel avec lequel, sur lequel la voie du dharma, eh bien, propose de travailler, de modifier, de développer, de retirer les voiles, etc. Mais ce matériau, il est là. Je pense que vous vous lèverez le matin avec une autre humeur dans l'esprit. Une autre façon de vous voir le matin et de voir la journée et surtout ce que peut vous proposer la journée comme travail sur cette potentialité positive. Pour moi, ça c'est un élément fondamental. Parce que ça rejoint la quatrième réflexion sur la nature du samsara. Vous avez beaucoup de personnes qui pensent que la nature du samsara, le samsara, c'est le monde dans lequel on vit. Parce qu'évidemment que, de façon extérieure, quand on étudie la nature du samsara, on étudie les 6 classes d'êtres dans lesquelles on peut reprendre naissance. Et alors que le nirvana, c'est une espèce de planète sur laquelle on va voler quand on aura quitté ce corps impur, comme disent beaucoup de textes. Je suis désolé, samsara, ça veut dire souffrance. Nirvana, ça veut dire paix. Samsara et nirvana, ce sont 2 termes, mais qui définissent notre esprit. Si notre esprit souffre, nous sommes dans le samsara. Si notre esprit est en paix, en pleine sérénité, en pleine félicité, c'est le nirvana. Alors maintenant, quelle est la cause de la souffrance? Quelle est la cause du samsara? Ça, c'est un autre élément que nous devons absolument expérimenter dans notre esprit. Est-ce que la cause du samsara, c'est d'être vieux? Est-ce que c'est la cause du samsara ou de notre souffrance, c'est d'être malade? C'est d'être séparé de tel individu? C'est d'avoir froid au mois de janvier? C'est d'être comme si, de vivre là, de vivre telle condition, etc.? Ou est-ce que notre souffrance, qui est dans notre esprit, ne s'élève pas à partir du fonctionnement de notre esprit, d'une certaine façon de fonctionner de notre esprit? Et ça, vous devez observer ça et vous devez chercher cela. Pourquoi est-ce que je souffre? Si vous souffrez là, dites-vous, mais pourquoi est-ce que je souffre? Et essayez d'établir la cause de votre souffrance. Et voyez que c'est la saisie de ce qui s'élève dans l'esprit, de ce qui traverse l'esprit, qui est cause de dukkha, qui est cause de la souffrance. Et là, on se rapproche vraiment de l'enseignement du Bouddha. Le Bouddha n'a jamais dit que notre souffrance ou notre bonheur sont dépendants des situations. ils sont la façon dont vit notre esprit telle ou telle situation. C'est bien pourquoi nirvana et samsara, ce sont des termes qui définissent le fonctionnement de notre esprit. Et c'est bien pourquoi la libération est possible, parce que cette libération est liée au fonctionnement de notre esprit. Mais si nous ne sommes pas convaincus que c'est ce fonctionnement d'esprit qui est cause de notre souffrance, alors nous rendrons toujours les autres, les situations, les circonstances responsables de notre souffrance. Et nous n'avancerons pas d'un iota, même si l'on médite. Il faut absolument faire l'expérience que c'est cette saisie, mais qui est le véritable poison, quoi. Parce qu'on continuera d'être confronté à telle ou telle situation. Les grands bodhisattvas accomplis sont confrontés à toutes les situations auxquelles nous sommes confrontés. Ils vivent de la même façon que nous vivons. Mais leur esprit ne vit pas ces situations de la même façon. C'est là où il y a la différence. Et c'est ça le samsara. Ou le nirvana. Mais c'est ça la pratique. Et pour arriver à cela, il faut faire un chemin. Il faut faire un chemin. Et le premier aspect du chemin, eh bien, c'est la première des pratiques préliminaires, spécifiques. C'est-à-dire le refuge et la bodhicitta. Et le refuge, c'est quand même un mot qui est important. Quand on cherche refuge, quand on prend refuge, de quoi cherche-t-on à se protéger, quoi? Et en quoi prend-on refuge, comme on disait tout à l'heure? Quand on prend refuge dans cette nature de Bouddha, on peut la reconnaître dans tout être vivant. Et là commence à poindre la bodhicitta, à la fois relative et ultime. Et c'est pourquoi on lie complètement la bodhicitta au fait de prendre refuge. Et bien sûr que si je prends refuge, c'est-à-dire que je m'en remets, et c'est le sens de la prosternation, et la grande prosternation, c'est je m'en remets complètement, je m'abandonne complètement à cette nature de Bouddha. Vous imaginez que si votre esprit, par le corps, le fait de se prosterner, par la parole, le fait de prononcer ce refuge et cet abandon, si votre esprit s'abandonne réellement à chaque fois que vous vous prosternez, c'est clair que quand vous serez prosterné 100 000 fois, l'abandon aura du sens pour vous. Le refuge en votre nature de Bouddha, ça aura vraiment un sens solide, profond. Et ça, c'est la première étape de notre pratique. Comment détermine-t-on quand quelqu'un est bouddhiste ou pas? C'est par le fait de prendre refuge dans les trois joyaux. Ensuite, il faut libérer les voiles, se libérer des voiles, purifier les voiles, comme on disait tout à l'heure. Et il y a deux sortes de voiles. Il n'y a pas deux sortes de voiles, mais il y a deux formes de saisie très fortes dans notre esprit. Ces deux formes de saisie, entretiennent ou se manifestent sous plusieurs formes de voiles. Mais la première forme de saisie, c'est le fait de saisir tout ce que nous vivons en termes de douloureux, en termes de souffrance, en termes négatifs. Je souffre, donc je suis. Beaucoup de personnes, hein. Traduisent leur existence par le fait de souffrir. Et les personnes, on se dit même le jour où cette personne ne sera plus malade, on ne sait plus si elle va encore exister, quoi. Il y a une très très forte saisie sur tout ce qu'on rencontre de négatif. Et ça, c'est la pratique qui va purifier cette forme de saisie, eh bien, c'est Vajrasattva. Et sous une forme de visualisation, sous un mantra que l'on récite, évidemment. Mais si notre esprit pense que parce que je récite 100 000 fois au Matasatosamaya Manupalaya, etc., en vaguement visualisant le nectar qui fait la grande lessive, mais que je, dans l'instant présent, je ne suis pas conscient que je peux me libérer à chaque instant présent de la saisie qui s'élève dans mon esprit, je ne purifie rien. Donc il faut le faire avec une présence d'esprit en totale accordance avec ce que fait le corps et ce que fait la parole. Et puis nous ne développons pas. Alors c'est pour ça aussi que le nectar, quand il ressort, eh bien on le voit comme étant noir, de la boue, etc. Hein, comme disait Kalo Rinpoche, l'eau de la première lessive, elle est noire, quoi. Donc c'est normal. Mais il faut le laisser aller, ça. Ça disparaît, ça. Hein. Et puis nous ne développons pas de saisie uniquement sur ce que nous vivons de façon pénible, douloureuse, on développe de la saisie par rapport à tout ce que nous vivons de façon agréable, joyeuse. Le fait d'être heureux, on développe une grosse saisie sur le bonheur. Et pour purifier cette saisie, eh bien, c'est la pratique du mandala, l'offrande du mandala. Et là, on offre tout. On offre aux trois joyaux, on offre à notre lama racine, et on offre à tous les êtres. Mais tout ce à quoi on est attaché, tout ce qui nous est cause de bonheur pour nous. Alors, évidemment que le texte, il utilise un texte symbolique et qui se base sur la cosmologie indienne. Mais qu'est-ce que ça signifie pour nous? Qu'est-ce que ça évoque pour nous, lavage d'abondance? Quand vous faites la pratique du mandala avec vos grains de riz et vous pensez à lavage d'abondance, au précieux ministre, à la précieuse reine, à moins de savoir exactement le symbolisme de tout cela, qu'est-ce que ça évoque? Il faut que notre pratique, elle évoque quelque chose pour notre esprit. Alors au lieu de parler de la vache d'abondance ou du précieux ministre, etc., pensez donc à votre compte en banque. Offrez donc vos colliers de perles, votre voiture à laquelle vous êtes tant attaché, votre situation professionnelle, votre situation sociale, votre souci de reconnaissance sociale, etc. Tout ce à quoi on est attaché, nos bibelots et tout ça, offrez, 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 offrez. Ne retenez rien. Et puis, à quoi sommes-nous le plus attachés? À notre corps, hein? Ben alors ça, offrez-le aussi. Hein? Alors bien sûr qu'il y a des pratiques comme Tche, par exemple, où on visualise qu'on offre notre corps à tous les êtres. Mais c'est encore du cinéma, ça. C'est encore du cinéma. C'est un moyen. C'est un moyen, mais c'est assez facile, même en faisant de cheveux, quand on possède bien les visualisations, de se découper en morceaux, d'imaginer que c'est cuit, que c'est cru, et que tous les êtres se repaissent de notre corps, alors qu'on est quand même bien assis, tranquillement, au chaud, avec le ventre bien rempli, et en bonne santé, que tout va bien. C'est assez facile de se faire un film spirituel. Mais essayez de trouver dans votre quotidien quelque chose que vous pourriez vraiment offrir. Et là, vous allez peut-être sentir la petite saisie qui retient, hein, la ficelle qui retient, je veux bien l'offrir, mais peut-être pas tout de suite, quoi. C'est ça, la pratique du mandala. Rinpoche, par exemple, disait que quand, dans les souhaits que l'on fait en fin de pratique, les souhaits sont dithyrambiques, quoi. Puisse mon corps, mon sang servir aux êtres à qui ils peuvent servir, etc. Il disait, oui, on le dit, mais est-ce qu'on on le pense vraiment, quoi? Bon, et enfin, quand nous avons donc offert toutes ces formes de saisie, que nous avons une confiance absolue dans cette nature de Bouddha et dans la bodhicitta, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, à unir notre esprit à l'esprit du lama racine, qui représente pour nous, hein, l'archétype de, qui est pour nous l'archétype de l'être réalisé, du Bouddha de notre époque. C'est-à-dire qu'on reconnaît, en fait, dans cette pratique du guru yoga, que notre esprit est totalement sagesse, et qu'il a toujours été sagesse. Que pour vraiment réaliser cette sagesse de notre esprit, oui, nous avons dû purifier les voiles dues aux différentes formes de saisie. Mais dans la pratique du guru yoga, c'est une reconnaissance que notre esprit a toujours été sagesse, a toujours été Bouddha. Et alors, il n'y a pas de différence entre notre esprit et l'esprit du Bouddha ou l'esprit de celui qui représente le Bouddha pour nous et que l'on appelle le lama racine. Et il n'y a pas de différence entre le Bouddha historique, entre tel maître aujourd'hui et nous-mêmes. Il n'y a pas de différence de nature. Et on en revient à cette nature de Bouddha. Il n'y a pas de différence de nature. La seule différence, c'est que ce maître-là a accompli tout le chemin et que nous, nous sommes encore en chemin. Et c'est la seule différence. Donc ces pratiques préliminaires qui sont présentes dans toutes les écoles du Vajrayana, que ce soit pour le Mahamudra progressif ou pour le Mahamudra direct, ces préliminaires en elles-mêmes, ces pratiques en elles-mêmes, sont des pratiques qui conduisent à la réalisation de Bouddha. Et l'ancien Kalu Rinpoche le disait dans la préface du flambeau de la certitude, il le dit bien, il dit mais ces pratiques-là sont un corpus de pratiques, mais qui conduisent à la réalisation de l'éveil. Dans les quatre fondations ou les quatre préliminaires communes, il faut les voir vraiment comme un antidote à tous les obstacles que l'on peut rencontrer dans notre cheminement. Et dans notre cheminement, le fait d'avoir des obstacles, c'est absolument normal. Vous avez tous une profession, vous n'avez pas réussi à avoir cette profession-là sans rencontrer d'obstacles. Et pour tout ce que l'on entreprend, il y a des obstacles. Mais pour tous les obstacles, il y a des antidotes. Il faut connaître les antidotes pour pouvoir dépasser ces obstacles. Ces quatre fondations, c'est vraiment les antidotes. Mais nous devons chacun de ces antidotes, nous devons les faire nôtres, c'est-à-dire vraiment les malaxer par rapport à l'expérience que nous vivons à ce moment-là. Les textes sont un support pour étayer notre réflexion sur ces antidotes. Mais à chacun de trouver la réflexion, mais qui va transformer sa compréhension, qui va la rendre profonde, qui va la rendre concrète, œuvrante, de façon à ce qu'il y ait une transformation dans notre esprit. Si le dharma, comme disait Rinpoche, si le dharma ne transforme pas notre esprit, même si on a l'apparence d'un très bon pratiquant du dharma, nous ne pratiquons pas le dharma. Ça, c'est le critère qui évalue notre pratique. Et puis enfin, pour terminer, Rinpoche, et c'est la première fois que je l'entendais dire cela, il nous a dit « Soyez plus souvent un yidam courroucé ». Alors, vous savez, un yidam, c'est ces divinités de méditation que l'on se représente. Et effectivement, il y en a des paisibles, il y en a des masculines, des féminines, des paisibles, mais il y en a des courroucés. Et quand vous regardez les yidams courroucés, ce qu'on appelle les protecteurs, en général, ils sont entourés de feu, ils ont des dents comme ça, ils ont des crânes secs, fraîchement coupés, sanguinolents, ils ont des attributs, des épées, des hachoirs, des tridents, c'est-à-dire que ça coupe, ça tranche, c'est net, sans anesthésie. Et Rinpoche nous dit, soyez un peu plus un yidam courroucé. Et il disait, ne soyez pas courroucé envers les autres, mais soyez courroucé envers vous-même. Et c'est la première fois que j'entendais Rinpoche vraiment développer cela. Il disait, soyez ferme avec vous, prenez des engagements. Soyez comme ça. Et il faisait le geste, comme ça. Ça, ce fonctionnement de l'esprit, cette manifestation égotique qui m'empoisonne depuis des années et des années, j'en suis conscient, mais à un moment donné, il faut arrêter de lui caresser l'ego dans le sens du poil. Il faut arrêter de négocier avec elle. À un moment donné, il faut dire stop. Et je stop. Je ne veux plus de ce mode de fonctionnement parce que ça crée de la souffrance pour moi et pour autrui. C'est une attitude d'engagement, une attitude déterminée. Et on sent cette détermination chez tous les bodhisattvas. C'est pas des chic-molles. Hein. À un moment donné, ils prennent des décisions pour travailler sur eux-mêmes. C'est ce que disait Rinpoche dans des enseignements lorsqu'il disait « Don't try to do it, do it ». Ça, c'est l'esprit du bodhisattva. Alors, de temps en temps, voilà, au lieu de toujours être Tara, la mère des Bouddhas, ou Chenrezi, soyez Mahakala. Dites-vous, ça, j'en ai assez de voir ça
de fonctionner comme ça, de voir ça dans mon esprit. Je n'en veux plus.
Alors voilà, de façon résumée, les alors Rinpoche, je l'ai trouvé particulièrement fatigué. Il était présent au Mönlam où il a dit qu'il y avait beaucoup beaucoup plus de monde cette année. C'était entre 25 et 30 000 personnes au Mönlam à Bodh Gaya. Hein, les Mönlam, c'est cette fête annuelle où toute la lignée se retrouve pour une semaine ou 10 jours de souhait du matin au soir pour la paix dans le monde, bon, etc. Mais le Karmapa était présent comme chaque année et le Karmapa donnait des enseignements en tibétain et c'est Rinpoche qui traduisait en anglais. Et je pense que entre les sessions d'enseignement et de pratique, Rinpoche devait être au service du Karmapa pour traduire je ne sais quoi. Et là-dessus, le premier, c'était le jour de la fête des Mönlam, et Rinpoche est parti pour l'Europe. Et n'ayant pas de place dans l'avion depuis Gaïa jusqu'à Delhi, il est allé à Delhi en train, donc c'est entre 12 et 15 heures de train. Il a pris un vol Berlin, comme il a dit, Berlin n'est capitale que de nom, mais il n'y a même pas de vol direct de Delhi jusqu'à Berlin, donc il a fait Delhi-Bruxelles, et puis Bruxelles, ensuite Berlin. Bref, il est arrivé à 13 heures à Berlin, après deux jours de voyage, assez fatigué. Et il devait enseigner à 17 heures, donc là, il n'a pas pu enseigner. Mais j'ai trouvé que les 5 jours de retraite, il était quand même assez fatigué. Ça, c'est un autre point de réflexion. Mais ça, c'est aux organisateurs dans les centres d'organiser un programme un peu plus soft pour les Rinpoche qui commencent à fatiguer. Quoi. Parce que leur corps, c'est le même corps que nous. Hein. 61 ans, c'est l'âge pile poil pour une crise cardiaque. Si on n'est pas attentif à ça, Rinpoche qui dit toujours oui à tout, un jour il continuera de dire oui, il fera comme Bokhara Rinpoche à 64 ans. Mais ça, c'est pas à lui de gérer ça, c'est à nous de gérer ça. Quand on sait qu'il voyage depuis deux jours, on ne lui demande pas d'enseigner trois heures après être arrivé. Quoi. Ce ne sont pas des machines, même s'il y a la bodhicitta qui est là et qui fait qu'ils enseignent, mais la machine, un jour, ne pourra plus répondre à leurs souhaits. Quoi. Alors, autre chose, hein, c'est les entretiens. Les entretiens individuels. C'est épuisant, ça. C'est épuisant. Alors, Rinpoche, il dit oui à tous les entretiens, mais à Berlin, eh bien, il y a eu, je crois, une soirée d'entretien. Les autres soirées, il disait non. Et c'est épuisant et tout le monde veut un entretien, tout le monde alors peut-être qu'il y a une autre façon de voir les entretiens, faire comme Khandro Rinpoche. Hein, Khandro Rinpoche, elle demande que la personne qui veut un entretien écrive sa question. Alors déjà, c'est plus court en général que la question orale qui est posée à Rinpoche. Lorsque je traduisais pour Rinpoche, j'ai vu Rinpoche des fois pendant la traduction à moitié s'endormir. Hein. Ça voulait dire qu'il était dans un état d'épuisement. Quoi. Et Khandro Rinpoche, à partir de ce qui est écrit sur le papier, eh bien, si elle peut répondre à la personne lors d'un enseignement, elle répond, il n'y a pas d'entretien personnel. Et si, par contre, ça nécessite vraiment un entretien personnel, alors là, ce n'est pas 10 minutes. Mais elle a vraiment un entretien, elle prend le temps pour être vraiment avec la personne. Des questions ?
Je voulais vous poser une question, mais c'est en dehors de... ce qui s'est dit ce soir. Comment expliquer à un enfant qui craint la mort, comment lui expliquer dans les termes bouddhistes bon, on croit bon, je sais qu'en Asie on sait que le continuum, donc il n'y a pas de mort, on n'a pas peur, enfin, mais l'expliquer en Europe, je ne savais pas comment choisir les termes à un enfant de 9 ans qui craint la mort.
Qui a des enfants ici? Moi, je suis mal placé pour ça.
Oui, ils craignent la mort, mais justement, comment lui expliquer pour les mystifier pour, moi, je voulais le faire de la façon, parce que moi, j'étais élevée, bon, j'ai assisté à des incinérations face aux morts qui bougeaient tous sous le craquement du feu. J'avais pas peur parce que j'étais dans une ambiance où personne n'avait peur. Mais arrivé en Europe, tout le monde, c'est la crainte de tout le monde qui, en fait, j'ai découvert la peur de. Quand j'étais plus jeune, enfin, de cette mort. Et après, quand je suis revenue à la région bouddhiste, bon, j'ai réussi à réévacuer ça. Mais après, on m'a demandé de l'expliquer à un enfant de 9 ans, mais en France. Alors, je me suis dit comment à la fois lui expliquer sans qu'il ait peur, qu'il n'ait pas peur, parce que lui dire que la peur, que la mort n'existe pas, que c'est un continuum, en fait, c'est... Bon, enfin, pour nous, en fait, il y a quelque chose après. Donc,
ah oui, dans ce sens-là, oui.
Oui, dans ce sens-là, quoi, en fait.
En tout cas, je pense qu'il faut déjà...
On continue, en fait, d'une autre façon.
Oui. Mais il me semble qu'il y a un point important quand même à expliquer, c'est que la mort fait partie de la vie, quoi. C'est un phénomène naturel, que ça nous plaise ou pas, mais c'est un phénomène, en tout cas, naturel, quoi. Bon, ça va peut-être pas lui donner une explication sur ce qu'est la mort, hein, mais...
C'est un point important. En fait.
Mais je sais pas, les personnes qui ont des enfants, là, comment vous expliquez à vos enfants ce qu'est la mort? Oui.
Je suis pas persuadée qu'ils ont peur de la mort. Ils ont peur de la mort de quelqu'un en particulier. Et en général, ou des parents, en fait.
Ah non, non.
Ils ont peur de l'abandon, ils ont peur de tout ça. Ouais. Ils n'ont pas peur de la mort, ou même qu'ils connaissent souvent. C'est pas très
important. Ah non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, parce que dans le milieu médical, on étudie, on sait qu'il y a une période, il y a une tranche d'âge où justement ils ont très peur de la mort. Contrairement à ce qu'on croit, on dit qu'ils sont jeunes, ils n'ont pas peur. Mais en fait, c'est l'inverse. Ils ont peur. Il y a une période où ils ont peur de la mort. Justement.
Mais c'est pas une mort désincarnée, c'est la mort des proches.
Plus la mort des proches que leur propre mort.
Voilà, bah, c'est pas ce qu'on a.
En tout cas, moi, j'ai entendu Rinpoche dire que vraiment arrêter de raconter des jolies histoires à vos enfants et montrer-leur la mort, montrer-leur des horreurs. Là, maintenant, il va y avoir un vrai travail fait. Il faut arrêter de dire, faut pas avoir peur. Il disait tout l'inverse. C'est un grand cliché des Occidentaux. Et je trouvais que c'était pas mal, quand même. Dire, ouais, montrer-leur l'horreur, montrer-leur la mort, montrer-leur des films d'horreur. Enfin, on ne s'attendait pas à ce genre de message. Ben, et là, il va y avoir un dire, on va faire ça, il n'y a pas de temps à perdre.
Je sais pas. Parce que nous, en Asie, on nous élève plutôt dans le sens où justement on n'a pas peur, en fait. Moi, je sais que j'ai eu peur que quand je suis arrivée ici. Hein. Je me suis mis à pleurer comme tout le monde à l'enterrement, alors que là-bas, à 4 ans, j'étais devant un bûcher avec. Ça me faisait pas peur. Parce que
j'ai vu des morts et des crémations en Inde, je peux vous dire, c'est.
Oui, mais
c'est
moi,
pas gay, hein.
Oui, mais je sais pas pourquoi j'ai pas eu peur alors à 4 ans, j'avais pourtant que 4 ans.
Je pense qu'à 4 ans, il est quand même trop jeune pour avoir conscience aussi.
Enfin, bref.
Le jardin offre de belles analogies pour expliquer les cycles. Moi, mes enfants, en fait, j'en explique que notre cycle, c'est le même que celui d'une fleur. Elle grandit, elle pousse, ensuite elle fane, et puis elle disparaît, mais elle ne devient pas rien. Je veux dire, elle va se transformer en terreau et puis elle va redevenir quelque chose. Et puis,
Moi, je crois qu'il faut essayer d'écouter la question qui est derrière la mort. Est-ce que c'est la peur qui est rien, qui est souvent la nôtre aussi, ou est-ce que c'est vraiment la peur qu'ils ont eue? Ils ont des fois une peur qui n'a rien à voir avec ce que nous on projette. Et en fait, la question sous-jacente est souvent celle-là. Et toi, si ça t'arrive à toi, qu'est-ce que moi je deviens? Parce que je suis petit et j'ai besoin de toi. C'est ça le problème. Et c'est vrai que c'est un problème.
Pour te répondre, Sophiette, en fait, moi j'ai une petite sœur de 9 ans qui a terriblement peur de la mort, mais vraiment.
Voilà.
Donc, quand je parle avec elle, c'est beaucoup justement, je reviens à de la nature. Oui. Je travaille beaucoup avec ça au niveau des saisons, des changements de cycle, des fleurs et. Pour qu'elle puisse le voir, elle, par les phénomènes extérieurs et qu'elle puisse le vivre intérieurement. Mais pas facile à cet âge-là, c'est vraiment pas
accepter, quoi. Mmh. Non, c'est vrai, des choses concrètes, quelques mots.
bien mieux.
Autre chose.
Par rapport au préliminaire, est-ce qu'il vaut mieux commencer par un préliminaire propre ou, pour l'avoir déjà entendu dire, un mois le premier préliminaire, un autre mois le deuxième, et puis après on recommence.
Vous parlez des communs ou des spécifiques?
Prosternation.
Ah ouais, d'accord, les spécifiques. Moi, je trouve que... Alors, traditionnellement, au Tibet, enfin pour les Tibétains, c'est... On fait le refuge et la bodhicitta, et vraiment, quand on a accompli ça, on passe à la suivante. Bon. Bokhar Rinpoche avait mis en place qu'on pouvait faire 10 000 de chaque. Voilà. Je trouve que un mois... C'est un peu court. Un mois, c'est un peu court. Mais un trimestre, ça peut être intéressant si on a peur de s'ennuyer, si vous voulez, quand on est depuis 3 ans, 4 ans dans la même pratique préliminaire. Il y a le risque. Voilà. En même temps, il y a des personnes qui se disent, bon, bah, je vais essayer, par exemple, 6 mois, tel préliminaire, et puis je verrai dans 6 mois. Et puis, au bout de 6 mois, elles se rendent compte qu'elles commencent à entrer un peu plus en profondeur dans la pratique, d'en avoir une compréhension plus expérimentale et moins superficielle, on va dire. Donc, à ce moment-là, elles décident de continuer. Moi, je crois qu'il n'y a pas vraiment de recette. Il y a... Avoir une continuité dans une pratique, c'est très bien pour nous occidentaux qui sommes quand même constamment en train de sauter de quelque chose à l'autre, quoi. Dans notre vie quotidienne, en général, on est constamment déjà agité du bocal, quoi. On passe d'une activité à l'autre. On fait un mois de ci, après pof, on fait 15 jours de ça, on s'intéresse à ça. Le leitmotiv aujourd'hui, c'est tout est intéressant, donc on s'intéresse à tout. Mais oui, on touche à tout. C'est un petit peu notre société en Occident, on est un peu comme ça, des touches à tout, quoi. Faisons peut-être en sorte que notre pratique, elle nous permette de fonctionner autrement. Alors bien sûr que si vraiment vous vous ennuyez profondément dans une pratique, bon, voir déjà l'ennui, ce que ça peut faire naître dans l'esprit, qui s'ennuie, pourquoi est-ce qu'on s'ennuie, ça c'est des questions intéressantes qu'on peut se poser dans notre pratique aussi, et qui permettent de dépasser cet obstacle-là. Mais si vraiment on n'arrive pas à le dépasser, bon, on peut effectivement passer à une autre pratique. Mais j'ai peur du papillonnage, moi j'ai un peu peur de ce que Trungpa Rinpoche appelait le matérialisme spirituel, quoi. Parce que une pratique, ça ne consiste pas à en faire 36. Ça consiste à aller dans ce que cette pratique doit faire naître dans notre esprit. Et j'ai peur que si on fait que 3 mois du refuge de la bodhicitta, on effleure cette expérience de la nature de Bouddha. Mais dès que c'est effleuré, bon, bah, on passe à une autre pratique. Alors que si on l'effleure, eh bien, c'est le moment de continuer et toucher le cœur de cette pratique. Dans le Zen, ils ne peuvent pas faire autrement, ils n'en ont qu'une. Ils s'assoient s'ils ont envie de faire autre chose ou pas, ils n'ont que ça à faire, de s'asseoir face à leur mur. C'est pas mal. Nous, il y a cette diversité de pratiques qui peut devenir une espèce de superficialité dans la pratique, quoi. Il faut se méfier de ça, je pense.
Et on ne peut pas faire, par exemple, tant de prosternation et puis passer ensuite à Vajrasana, parce que quand même, ça purifie, bon, des fautes qu'on peut faire dans la journée, etc. Mais même si on ne compte pas, on peut quand même réciter le mantra du Vajrasattva.
Mais ça, c'est ce qu'on fait le soir avant de se coucher, c'est dans le bilan. Mm-hmm. On récite 21 mantras en pensant que ça purifie ce que l'on a fait. Voilà, il n'y a pas besoin de faire la pratique de Vajrasattva en termes de préliminaire pour cela. C'est plus profond que ça, la pratique de Vajrasattva. C'est vraiment pour, comme je disais, pour purifier cette forme de saisie qui est présente partout dans tout ce que l'on, dans notre façon d'être constamment, quoi. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup et j'aime vraiment de plus en plus, j'allais dire Rinpoche, mais ses enseignements, parce que pendant des années, on avait des textes de pratique épais comme ça, quoi. Avec 5 Gemenla, Amitabha, les 37 machins, les 36 machins, les 108 choses, pratique de ci, pratique de ça, etc. Aujourd'hui, tiens, qu'est-ce que je ferais bien? Oh, tiens, je vais faire ça, je le sens bien, tiens. Bon, alors voilà, on faisait ça, on avait l'impression de pratiquer. Demain, alors le jour suivant, oh non, je l'ai fait hier, oh, ça me dit rien aujourd'hui, mais oh, ouais, peut-être ça, tiens, ah oh, oui, il y a longtemps que je ne l'ai pas fait, etc. On est encore dans ce fonctionnement de l'esprit, j'aime, je n'aime pas, je... Dans notre pratique spirituelle, je pense qu'on a besoin d'être confronté au fonctionnement de notre esprit. Asseyez-vous simplement en faisant Mahamudra tous les jours, trois quarts d'heure, tous les jours. Vous ayez envie, pas envie, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit? Là, il y a peut-être quelque chose qui se modifie. Ou alors choisissez les prosternes. Ouais, faites 100 prosternes tous les jours. D'accord. Bah, le jour où vous n'avez envie d'en faire que 20, il y en a encore 80 à tirer. Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit? Les tensions, l'ennui, qu'est-ce que je fais là? Mais ça fait partie du cheminement. Le cheminement spirituel, c'est génial. C'est de l'angélisme, c'est pas de la pratique spirituelle, ça. Il faut qu'on aille, qu'on touche un petit peu nos limites, les petits nœuds de notre esprit. Quand vous faites des pratiques sur une longue période en termes de retraite, je peux vous dire que le maître de retraite, il nous pousse dans nos retranchements. Hein. Ça, il nous pousse bien là où ça coince, où... Et tant que ça ne coince pas, bah, il charge la mule jusqu'à ce que ça coince. Ou aller à Weitersweiler faire un Ruatsu, 8 jours, 11 heures de zazen par jour pendant 8 jours, vous allez voir si ça ne va pas coincer. Toutes les pratiques, toutes les voies, toutes les écoles ont cette façon de nous amener, en fait, là où ça bloque, quoi. Et quand ça bloque, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui bloque? Voilà. C'est là où ça peut, bah, on peut passer, quoi. Vous faites un zona ou ça lâche? Vous vous piquez une bonne colère parce que ça coince, ou alors, à ce moment-là, ça lâche. Pour les personnes qui viennent pour la première fois, je ne sais pas si elles ont envie de revenir après ça, mais bon. Autre chose? Chagya chan po rum gyo ne Jowa chikyong ma lupa Dei salang pa ne
question.